Écoutez, bonjour à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Alors, je remercie le CRIC de nous recevoir ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et puis, je remercie aussi la librairie Olivieri, qui, comme d'habitude, est un partenaire de la lecture et de l'écriture. Alors, bonsoir Pierre Ouellette, bonsoir à tous. Quelques mots pour présenter l'écriture de Pierre Ouellette. Vous savez tous combien c'est une écriture généreuse. C'est une écriture maîtrisée, qui est fluide, qui est virtuose, qui est disséminée aussi à travers un grand nombre d'ouvrages, une écriture du don. On a l'impression, en lisant Pierre Ouellette, que rien ne lui échappe, qui est tout cool avec lui, qu'il a une écriture qui fait honneur à Héraclite, mais qu'il a aussi un syncrétisme qui lui permet aussi de discuter avec Parménide, d'être immobile dans le temps. Et en le lisant, en relisant ses livres et en me plongeant dans ses essais qui sont sortis, pour lesquels nous sommes ici ce soir, qu'il va nous présenter, j'ai eu envie de relire Le mythe de Sisyphe de Camus. Vous connaissez cet essai sur l'absurde. Et je voudrais lui offrir ce soir l'épigraphe de cet essai qui est écrit par Pindare et qui disait « Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. » Voici un petit peu pour introduire cette œuvre. Alors, Pierre Ouellette, un écrivain qui a une vaste énergie et qui supporte donc, tel Sisyphe, le poids du monde. Sa démesure est soutenue par une exécution extrêmement rapide de la profération. Il écrit avec du côté du geste, faisant feu de tout bois et tirant sur ce qu'il bouge. Je ne sais pas s'il sera d'accord avec cette expression. Multipliant les points de vue, les perspectives, et son lyrisme est tout à fait emballant. Et la question que je lui poserai tantôt, avant, quand il pourra répondre, c'est quelle est donc cette quête à travers le langage? Donc, encore quelques mots pour le présenter. Tout habillé de langage, Pierre Ouellette a découpé un très riche matériau verbal. Il possède une sorte de fureur sensorielle, un érotisme très esthétisé. Et il a développé ce partage du sensible, ce mot est de lui, cette expression est de lui, il l'a emprunté à Jacques Rancière, qu'il développe dans la vue et la voix. Et c'est dans les arts, la littérature et la vie commune que vous allez trouver ici, qui vient tout juste de sortir et qui est un essai, un collectif. Alors, dans ses essais, dans ses lignes, dans sa poésie, vous allez trouver toutes ces formes qui contribuent au façonnement de l'espace public qui lui est si cher. Donc, vous savez tous qu'il a écrit, publié une quinzaine d'ouvrages de poésie, 5 récits ou romans, une douzaine d'essais et autant d'essais d'ouvrages collectifs qu'il a dirigés. Il a une production qui est, je pense, exponentielle. Il est chercheur, professeur, éditeur, un écrivain polygraphe et il possède un éveil absolument exceptionnel sur la littérature d'aujourd'hui, sur la pensée d'aujourd'hui et du temps passé d'ailleurs. Alors, ses livres les plus récents, Une outre emplie des terres qui se rétracte dans le froid. Alors, c'est un recueil de 3 livres de poésie qui ont été écrits pour l'essentiel dans les années 80 et qui font suite à Voir. Enfin, suite, c'est peut-être pas le terme non plus, puisqu'il se recoupe, je pense, dans le temps. Voir aussi, qui était publié il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Il va nous présenter donc ces livres-là, cet outre rempli des terres, et cette vue et cette voix dans les arts, la littérature et la vie commune. Mais nous ne pouvons pas parler sans faire appel, sans faire référence aux livres qui sont sortis l'année dernière et qui sont en lien avec ceux qui sont présentés aujourd'hui. Alors en 2008, il y a eu surtout Hors temps. Je vais vous faire voir dans la même collection Hors temps, qui lui a valu le prix du gouverneur général. Et cet essai-là s'accompagne de La défense et illustration du post-exotisme en 20 leçons avec Antoine Volodine, qui est son complément, son frère jumeau, enfin son partage dans le collectif. Et puis, bien sûr, il faudrait rajouter les essais et les textes de poésie. Enfin, ils s'entrecroisent. Il y a des positions, qui est le dernier ouvrage de poésie, qui date de 2007. Alors, on va y revenir aussi. Il y avait auparavant, en 2007 aussi, Outland, qui va se prolonger dans le titre de la rencontre d'aujourd'hui, cette expérience du dehors, qui était déjà bien inscrite dans ce titre-ci. Et en 2007, sans remonter très loin, il y a eu, je pense, non, Une ombre entre les ombres, c'était un petit peu plus tôt, hein, c'était 2006 aussi, ce livre de prose qui est superbe, et les livres qui accompagnent cette pensée et qui sont illustrés magnifiquement par Christine Palmieri qui est ici, Puissance du verbe, écriture du chamanisme et À force de voir, histoire de regard, dont des livres superbes que vous pourrez aussi regarder si d'aventure vous ne les connaissiez pas. Alors voici pour cette petite présentation. Donc abordons le thème d'aujourd'hui. Quelle quête, Pierre Ouellette, quelle crise du temps as-tu abordé? Alors je vais dire tout simplement que je vais utiliser un « tu » de collègue, mais qui n'est pas un « tu » d'intimité. Alors allons-y pour ce premier partage sur le temps.
Ben, merci Guylaine d'abord d'avoir bien voulu animer cet entretien, et merci à la librairie et au CRILC de m'avoir invité.
Oui, très proche de la bouche.
Voilà, bon. Et je vais retenir de ce que tu viens de dire la notion de geste, parce qu'elle me paraît essentielle hein, dans ce que je fais depuis déjà plusieurs années. Le geste consiste à prendre quelque chose. Hein, donc il ne s'agit pas simplement d'une parole qui se dit à propos du monde, à distance du monde, mais d'une parole qui va jusqu'au monde, hein, d'une parole qui, que ce soit dans le poème, dans le récit ou dans l'essai, tend la main hein, vers les choses, les saisit par moments ou peut-être aussi s'en dessaisit, les laisse aller leur propre chemin, mais c'est quelque chose qui a à voir avec l'approche, hein, par le geste, par la... on évoquait tout à l'heure ensemble l'idée que ces textes ont beaucoup à voir avec l'art, avec la peinture. Ce sont les premiers gestes que j'ai pratiqués avant d'écrire. J'ai d'abord peint pendant assez longtemps, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et dans la peinture, il y a ce contact permanent avec le tableau, via le pinceau, les pigments. Donc quelque chose de très concret, hein, qui consiste vraiment à toucher hein, avec le bout des doigts et des mains. Et je crois que tout ce que j'ai cherché à faire, c'est par la langue, même si ça peut paraître paradoxal, la langue nous sépare du monde, mais faire en sorte que la phrase, le vers, le mot, le livre dans sa composition générale soit une façon d'aller jusqu'au monde, de le toucher, parfois de le violenter peut-être, aussi de le caresser, mais en tout cas quelque chose chaque fois qui relève du geste. Hein. Et en ce sens-là, on peut effectivement peut-être parler d'une quête. Mais la quête, c'est un terme qui m'embête un petit peu parce que j'entends aussi le mot conquête dedans, c'est-à-dire l'idée qu'on part à la recherche de quelque chose, la toison d'or, le Saint Graal, pour se l'accaparer, pour le posséder. Or, ici, le geste, même si parfois, bien sûr, il saisit, il capte, ressemble plutôt à une main qui cherche à attraper une poignée de sable ou même... de l'eau qui s'en échappe, hein, qu'on ne peut pas retenir. Hein. Il y a quelque chose, donc, dans ma pratique de la langue qui fait que je vais vers le monde, mais sans vouloir le posséder. Et en ce sens, la quête n'est peut-être pas un terme qui convient parfaitement. L'idée du dehors dont je parle renvoie de l'outland, hein, cette terre qui est complètement out, hein, qu'on ne peut pas vraiment... s'approprier renvoie au fait que le monde, même si on va vers lui, même si on lui tend la main, est quelque chose de trop vaste, trop puissant pour qu'on puisse le posséder. Hein. Donc il n'y a pas véritablement quête d'un objet, il y a plutôt poussée hein, de soi, vers quelque chose où on peut aussi bien se perdre que se retrouver.
Alors cette main qui saisit, elle amène le dehors, elle apporte, elle entraîne, elle va chercher le dehors et elle nous amène tout de suite dans l'intime au fond, dans l'intériorité, puisque ce n'est pas une quête extérieure d'un objet à saisir, mais bien à posséder du dedans. Alors c'est un premier peut-être...
Mais la chose qu'on considère le plus intime, hein, la plus proche de soi, c'est la langue dans laquelle on se parle mentalement, hein, dans sa conscience ou même dans son inconscient. Or, cette langue, on sait qu'elle vient du dehors. On ne naît pas avec une langue. Hein. Je dirais qu'on vient à la langue comme on vient au monde. Hein. Et on l'apprend peu à peu, justement comme ça, en saisissant un mot ici et là, on finit par se construire cette langue qu'on appelle naturelle, mais qui n'est pas tout à fait naturelle, puisqu'on vient d'abord au monde muet, sans mots, sans rien. Et peu à peu, donc, en s'accaparant ici et là des petits bouts de langue, on finit par faire de ce dehors de la parole quelque chose qui est proprement intérieur. Hein. L'intimité avec laquelle on vit ses propres rêves, sa propre mémoire, ses propres fantasmes, passe toujours d'une certaine manière par une langue qui vient du dehors. Et par aussi des paroles et des images qu'on reçoit de l'extérieur.
Alors, oui, parlons un peu de cette confrontation avec le dehors, puisque si la langue n'est pas si naturelle, n'est pas donnée, il y a quelque chose qui est ramené de l'extérieur. L'expérience du dehors, c'est donc une aventure.
Oui, c'est l'épreuve de l'étrangeté de notre existence dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Les choses comme les mots... vont peu à peu nous devenir familiers. Mais au départ, c'est l'inconnu. Hein, c'est l'aventure vraiment au sens littéral du mot. Hein, c'est le participe passé du verbe advenire, qui veut dire advenir. Hein. L'aventure, c'est faire face à ce qui advient, ce qui survient. Et la naissance est déjà une manière de tomber dans quelque chose qui nous advient sans qu'on l'attende, sans qu'on sache trop ce que c'est. Et peu à peu, bien sûr, on se familiarise avec cet inconnu-là. Alors, la première aventure, c'est la naissance, c'est l'apprentissage du langage, c'est l'apprentissage du monde sensible, bien sûr. Et là-dessus, on peut après construire des fictions, comme j'ai tenté de le faire, qui reprennent cette idée d'un contact avec ce qui survient et ce qui advient, d'une mise en danger face à ce qui ne peut pas être... comment on pourrait dire maîtriser, enfin.
Alors, on pourrait peut-être entendre une page ou un extrait qui nous permettrait de saisir, au fond, par l'exemple, ce qu'est cette première expérience du contact avec le dehors et qui est initiatrice,
peut-être. Que je peux vous lire un extrait de Une ombre entre les ombres. C'est la deuxième partie qui s'appelle Cartographie des égarements. Et qui raconte un peu les aventures de jeunes adolescents, d'enfants un peu tardifs dans la forêt. Alors, je vous lis quelques extraits. On est dans la petite humanité de l'enfance et c'est déjà trop grand, immense. On se demande si l'on sera jamais assez grand pour la remplir et qu'elle nous fasse, vêtements tout neufs, saillants. Non pas ce linge usé qu'à chaque année on hérite d'un plus grand, avec ses manches qui pendent et ses trop longues jambes qu'on retrousse sur ses mollets. On est trop petit pour sa vraie vie, trop maigre pour l'espace, trop grêle pour le temps. On fait avec. On portera le monde comme une chemise qui flotte sur ses épaules, un pantalon qui baille sur ses hanches, pantaux talons, un épouvantail vivant. On traîne partout ce mannequin-là, un homme de paille sur un fétu, une botte de foin sur une aiguille à jamais perdue. De l'être humain sur un enfant, trop frêle pour affronter la vie. La vie, on la contournera, on s'en détournera. Elle ne nous fait pas, ne nous ira jamais. On est nu dedans, non protégé, comme si l'âme n'avait pas de corps pour s'abriter. On est dehors, toujours dehors, de sa personne, de tout son être, comme si le cœur, la tête... C'était des chemises encore, des pantalons et des vestons trop grands qui vous laissent libre, flottant, comme un arbuste dans un grand champ. On va avec le vent seulement, qui s'ajuste à soi. Un gant à l'âme, un mot aux lèvres, de l'air dans l'air. La tête respire et le cœur souffle, mais trop. Trop fort pour nos poumons d'enfant. On n'a pas de chambre, pas de lit où rêver que l'on dort. On est dehors infiniment et c'est comme si on ne pouvait pas être davantage dedans, coulé dans les vêtements du temps, léger, à demi transparent, drap blanc qui claque dans un ciel changeant. Des enfances d'eau et de forêt, des enfances d'air, à peine sorties de terre, y retournant, par l'herbe, les arbres, les champs. On poussait là parmi les blés, les trembles et les fougères, plantant son corps et le déracinant à chaque mouvement des pieds. Racines soulevées que l'on porte ailleurs, boutures vivantes que l'on transplante, pour que la vie elle-même semble une forêt, vierge, comme avant le temps. Mais on faisait son chemin, une cordée d'instants pour remonter le temps, coupant de biais dans la durée, la longue durée d'une matinée passée à explorer les bas-côtés d'une existence réduite au pas posé devant soi, l'avenir ne dépassant jamais le pas suivant, faux pas ou pas de côté que l'on poserait bientôt comme une borne où l'on pourrait un jour se reposer.
Merci. Oui, c'est très beau, enfin, cette crise du sujet dans l'espace qui se perd et qui se confronte à soi, à trop grand pour soi, au fond. Ce langage étant ce dehors aussi qui va être approprié dans l'expérience de ce sujet un peu perdu, un peu égaré, un peu inconnu.
Oui, comme si l'espace était trop grand pour le jeune enfant dont je parle ici, et que le temps de sa propre vie, mais le temps aussi comme histoire, était aussi quelque chose d'immense, comme un vêtement qui ne nous fera jamais, dans lequel on flotte littéralement. Et je pense que cette idée d'un monde comme vêtement trop grand est à l'origine un peu de cette quête, on parlait de quête bien sûr, mais disons de ce geste, qui consiste à vouloir dénuder les choses davantage, hein, c'est-à-dire non plus les voir comme quelque chose qui nous abrite, qui d'une certaine manière aussi nous contraint, nous enferme dans ces murs, dans ces voiles, ces tissus, etc. Donc cette volonté d'aller toujours vers quelque chose qui est de l'ordre du dénudement, de la dénudation, hein, du dénuement aussi bien.
Oui. Alors l'écriture apparaît dans ce mouvement-là un peu, tu as dit, comme un sismographe, une écriture extrêmement sensible qui va recueillir toutes ces perceptions multiples et un peu hirsute, au fond, de la personnalité égarée dans cette grande nature, dans ce dehors plus ou moins hostile et plus ou moins miroir. Alors, cette écriture sismographique, elle éclate dans le temps et dans la géographie. Alors, pourrais-tu aussi nous expliquer un peu ces perceptions ?
Les gens me disent, quand ils me lisent, qu'ils n'arrivent pas à se faire une image globale de ce dont je parle, parce qu'il n'y a pas de description au sens classique, comme vous l'avez peut-être senti à l'écoute de cet extrait. Il s'agit plutôt d'éléments, ce que Leibniz appelait des petites perceptions, qui n'arrivent pas tout à fait à se conjuguer les unes avec les autres, à se coordonner de sorte que le paysage global nous échappe. Hein. On n'a que des petits éclats, hein, comme tu disais tout à l'heure, perceptifs. Bien sûr, on sent, et on sent peut-être trop par moments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, qui touchent à la fois au sens, mais aussi aux affects, aux émotions, mais sans qu'il y ait de synthèse. Hein. C'est une écriture vraiment de l'analyse, hein, la dissolution, hein, l'analyse. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui cherche à faire un portrait global et qui permet de rassembler tout ça. Il y a davantage de la dissémination, du dispersif.
Moi, je vois un peu cette écriture un peu comme... C'est l'image du surgeon qui me vient. Le mot me venait. Surgeon, c'est-à-dire ces pousses dans la nature qui sont non contrôlées, qui sont sauvages. Et puis le surgeon, c'est aussi l'eau qui court. C'est pas tout à fait la source, mais ce sont des éparpillements d'eau qui viennent du sous-sol et qui noient un petit peu le paysage. Alors, c'est ce grand paysage québécois, ce grand paysage de l'Amérique ouverte et difficile à contrôler ou incontrôlable même. C'est peut-être l'aventure aussi de cet outland dont il est question dans tes essais. Est-ce une aventure américaine ?
Je ne sais pas si elle est typiquement américaine, mais les paysages qu'on retrouve surtout au début du Nombre entre les ombres, mais aussi dans des livres comme L'Attrait, sont fortement inspirés d'un endroit où j'allais il y a déjà quelques années, au bout de la route, au bout du monde, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que vous connaissez sans doute, est bordée au nord par ce qu'on appelle le Valinois. Hein, et il y a le fameux Mont Valin, au sommet duquel on trouve un belvédère très, très beau, magnifique, où on peut avoir une vue très, très vaste depuis le lac Saint-Jean jusqu'au fjord de Tadoussac. Et de là, si on se tourne vers le nord, on sait d'abord qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de possibilité d'y aller, en tout cas par des moyens terrestres motorisés. On peut y aller en hélicoptère ou en avion, mais on sait que c'est vraiment le bout de la route. Et les gens là-bas disent « allez au bout de la route » comme ça. Et bien sûr, c'est le début de ce qu'on appelle la taïga, c'est-à-dire les petits arbres, les petits sapins. Donc, il n'y a pas une végétation très abondante. Mais cette pauvreté-là est extrêmement parlante. Hein. On y sent quelque chose qui veut se dire. Hein. Ce n'est pas la forêt fière d'elle-même avec ses grands fûts, mais quelque chose qui, comme les surgeons, pousse d'une manière un peu hasardeuse, comme ça, ici et là, entre les cailloux, entre la caillasse. Alors, ces paysages-là sont omniprésents, effectivement. Je ne sais pas s'ils sont très nombreux en Europe, de moins en moins, bien sûr. Ici, en Amérique, c'est vrai, surtout dans ce qu'on appelle le Moyen-Nord, on les trouve abondamment. Alors, sans doute, il y a quelque chose de cette pauvreté du paysage, d'une certaine manière, du fait qu'il est très, très peu habité, très peu peuplé, et qu'il est aussi difficile d'accès, hein, d'une certaine manière, parce qu'on n'y va pas facilement. Hein, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste tellement. Alors, tout ça fait en sorte qu'effectivement, on a affaire à quelque chose d'un peu vierge, hein, d'un peu... on sait très bien qu'il y a des gens qui sont passés avant nous. Hein, on n'est pas les premiers explorateurs, mais on a la sensation, hein, comme j'avais enfin, là, dans les scènes que je décris ici, en partant dans la savane, de découvrir quelque chose, hein, même si c'est une pure fiction. Mais il y a la possibilité de découvrir. Et cette terre nord-américaine est sans doute un des lieux où cette découverte est encore possible.
Oui, alors cette vastitude, elle se reflète, je pense, à plusieurs niveaux, dans le fait de repousser les frontières. Alors, ce n'est pas une œuvre de frontières, de délimitation. L'horizon est infini de la lecture, de l'écriture. L'expansion verbale est également immense, enfin, sans borne, sans fin. Ce paysage également. Alors, est-ce un peu cette vue, cette voie qui dirige cet outland, cette marche, ce déplacement dans l'univers immense?
Outland, c'est, comme vous le savez, un mot inventé par Melville, hein, qui prétendait avoir écrit son Moby Dick en outlandish, hein, en outlandais, en ailleurais, pourrait-on dire, en traduisant en français. Et il a inventé donc cette langue pour parler... de cette aventure sur les mers à la recherche de la grande baleine, donc sur un espace où il n'y a effectivement pas de frontières, hein. Autant le Spanish, l'English, le French, etc. pour Melville se parlaient à l'intérieur de frontières nationales, autant l'Outlandish se parle hors frontières, hein, dans des terrains vagues. On peut parler bien sûr de l'océan, mais aussi de l'Océanie, qui est un drôle de continent et qu'il a lui-même exploré. Donc il y a cette volonté, bien sûr, chaque fois, d'essayer d'inventer un monde où les territoires ne tiennent plus, enfin, les frontières ne tiennent plus, les territoires, finalement, se fondent l'un dans l'autre, sans possibilité de les distinguer. J'aime bien l'idée d'une terre et même d'un terroir, hein, comme on parle des produits du terroir, parce que je crois qu'il y a un enracinement nécessaire, mais je n'aime pas qu'il y ait de frontières autour, hein, de clôtures. Je préfère les jardins sans enceinte, hein, qui s'étendent, qui s'épandent comme ça, sans contrainte. Alors, cette idée-là de l'Outland, c'est vraiment celle d'une langue qui pourrait être parlée par les sans-frontières, les sans-territoires.
Alors, on arrive un peu à ce concept un peu étrange du post-exotisme qui a été proposé, je pense, par Antoine Volodine et avec lequel tu es très familier et puis qui a maintenant une résonance ici au Québec dans toutes les lectures que tu as faites en ce sens. Alors, pourrais-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour toi, ce post-exotisme?
Oui, Autant il y a eu, depuis le milieu du 19e siècle, un intérêt pour l'ailleurs, hein, avec tous ces grands écrivains et artistes voyageurs qui ont exploré le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, hein, on pourrait dire des voyages de Lamartine à ceux de Ségalène et Claudel. Donc autant il y a eu une édification comme ça de l'exotisme. Hein, Ségalène a écrit un très beau traité du divers, hein, où il parle de ce qu'est l'exote, l'écrivain exote. Autant aujourd'hui, cet ailleurs est ici. Hein. Il n'est plus maintenant dans les confins, dans les lointains. On n'a plus à entreprendre de très longs voyages comme ont fait les écrivains dont je parlais pour aller le trouver. Il est parmi nous, l'ailleurs. Donc on est dans un monde post-exotique, hein, qui ne place plus l'ailleurs là où on le situait autrefois, c'est-à-dire dans une altérité, une hétérogénéité absolue. Il se mélange à nous, il est en nous, il est parmi nous. Et c'est en ce sens que l'œuvre d'Antoine Volodine en particulier, mais tous les auteurs post-exotiques qui gravitent autour, m'intéressent au plus haut point. Parce que vous voyez que cet ailleurs dont je parle, c'est pas du tout une sorte d'absolutisation, de fétichisation de l'étranger avec un grand E, puisque je parle d'ici comme d'un ailleurs aussi bien.
Oui, on a d'ailleurs beaucoup plus l'impression que c'est la découverte de l'intime et du plus petit, de l'éclat, en fait du minuscule, qui va faire ce post-exotisme, c'est-à-dire une complexité de plus en plus grande de à la fois ce qui est connu et de ce qui se révèle d'inconnu à l'intérieur du connu. Donc le dehors vient au fond faire exploser les données connues du dedans. Et inversement, ce dedans, il se répand au fond dans ce langage qui essaie d'en faire le tour à l'infini.
Oui, c'est-à-dire que si la perspective qu'on adopte est celle d'être le plus sensible possible à tout ce qui advient en termes d'espace, de temps, de rapport à l'autre, etc. Le soi, enfin, tout ce qui on renvoie à l'intimité, doit se faire très malléable, très plastique, doit accepter d'être constamment métamorphosé. Mm-hmm. Hein, un peu comme un moule qui reçoit, hein, du geste du sculpteur cette forme en creux, hein, qui va permettre d'y couler le plâtre et de faire la statue. Je crois que l'esprit de l'écrivain est ce moule-là. Hein, d'une grande malléabilité, d'une grande plasticité. Je n'ai pas cette conception qu'ont beaucoup d'écrivains, sans doute, qu'on exprime quelque chose qui nous appartient d'emblée dans notre forêt intérieure, hein, où on projetterait à l'extérieur ce qui serait de l'ordre d'un pur dedans natif, hein, qui serait né avec soi. Non, je crois qu'au contraire, tout émerge de l'étrangeté du monde et vient bien sûr se déposer en nous. Et ce, à travers tous les filtres des sens, de la mémoire, de l'intuition, etc., et vient se déposer d'une certaine manière. Et c'est de cette manière dont le monde se dépose en soi que l'écrivain parle, hein, plutôt que de projeter simplement ces soi-disant fantasmes ou volontés ou monde intérieur.
J'aimerais que tu nous lises peut-être un poème qui illustre au fond cette très belle idée de l'outre emplie d'éther qui se rétracte dans le froid, ou un poème de déposition, mais on en parlera peut-être tout de suite après.
Voilà, je voudrais peut-être vous lire au préalable la quatrième de couverture qui explique pourquoi j'ai repris ces livres-là, qui explique peut-être pas pourquoi, mais comment, en tout cas, je les ai repris. L'univers est chiffonné, disent les physiciens. Notre vie aussi. Et les livres qui en témoignent, boules de papier jetées sur son chemin, où elle continue de rouler sans nous, amassant mousse, poussière, débris de toutes sortes, chiffons de mots qu'on redéplie un jour ou l'autre pour voir combien les froissements d'où l'on vient auront laissé de traces. Chaque vie est une outre remplie d'éther qui se rétracte dans le froid. La mienne contient quelques poches d'air où j'ai appris à respirer. Théâtre d'air, lavéré, fond et fait, jeté sur le papier il y a 20 ans, m'auront donné le souffle, peut-être court, entrecoupé, qui m'a permis de vivre jusqu'à ce jour comme on écrit ou comme on parle, dans la reprise, la refonte et les remaniements. Après Voir, ce livre est le deuxième recueil de remords et de regrets où je retouche de vieux vêtements pour qu'ils me fassent encore un peu. J'en élargis les manches pour la respiration des membres, j'en renforce les coutures pour le défi au temps, j'y ajoute une doublure de sens et de non-sens pour lutter contre le froid, la mort qui vient, l'engourdissement. Alors, je vous lis quelques poèmes de la toute fin de Fay. Alors, ça s'appelle « Table d'orientation ». Dites au monde que les volets qui s'ouvrent sur son propre néant et claquent toute la nuit comme les horloges marquent les instants ressemblent aux yeux que les cieux clignent face à tout ce qui bouge, sur terre parmi les choses d'où trop de lumière jaillissent. L'homme, la femme sont cette ultime agitation. Deux cœurs qui battent à l'unisson des larmes, des rires, des claquements de dents, des froissements de lèvres, des rimes et des bas. Borigme, comme deux pierres l'une sur l'autre d'où surgit l'étincelle, la source de l'incendie, l'incident d'un monde qui rencontre le monde sur son passage, la collision de rien et d'encore moins. J'entends rire les sources dans la bouche des fleuves que la mer embrasse mal, de grandes crues noires remontées jusqu'au puits. Elle donne naissance au vent, aux pluies, au sel de toute vie, au sable de la mort dans un rictus de la terre au complet. Elle tremble de peur devant les grands sommets, les horizons blêmes, les lignes de faille tirées sur le temps. Pas d'autre vie que l'agonie lente des eaux de rue en rue vers le grand large dont l'improbable rivage laisse sur les lèvres ce sourire mystérieux, une mâchoire d'homme dans la bouche en trouverte d'une plaie qui n'a plus de bord, un visage d'ange et ses stigmes maintenus. Écrire, souffler sur ses doigts, lutter contre les grands froids, avec des mots qui donnent un sens, une voix, aux mains qui tremblent, aux lèvres qui frémissent, au vent qui gèle entre les dents. Laissez pas les l'os, l'artère, le nerf gravé dans la chair, les hurlements de joie, les rires de haine, les influx de rage, l'hémorragie douce d'aimer, sécheresse d'agoniser, ses moelles, ses chyles, ses lymphes, ses miasmes, les embolies de sens, les syncopes d'air qui manquent, les mots qui brûlent, la langue, les doigts, la vie parlée, debout, veiller, dormir, rêver à quoi ? Des couvre-feux dans les déserts, qu'il comble de silence, d'air frais. L'horizon flambe, l'oasis flue. On se croit au seuil d'autre chose que l'être. Un état de fait, plus vrai que le fait. Un état d'âme, plus réel que l'âme. Un monde, plus sombre que toutes ces ombres rassemblées. Celles que tu portes jusque dans ta tombe. Celles que tu jettes dans le vent d'été. Le monde entier sombre dans ses derniers mots. L'ordre resté muet de te taire à jamais, tout oublié, mais où ?
Merci. Alors, je crois qu'on entend très bien le rythme de la parole, le rythme de la profération. On entend les obstacles des mots, les uns contre les autres, les mots contre le monde, et puis ce monde qui réagit, qui lui aussi tente de s'emparer du sujet qu'il veut proférer. Alors, dans ce combat, comment se présente maintenant l'outre remplie d'éther qui se rétracte dans le froid, puisque là, c'est l'idée de la respiration et de l'échange qui vient peut-être prendre le dessus sur les heurts et les brisures qu'on entendait dans ces poèmes des années 80.
Tout à fait. Ben, l'outre remplie d'éther, c'est vraiment la définition de l'âme qui se contracte et se détracte, rétracte, etc. Quelque chose comme une forge, une pompe, quelque chose qui permet effectivement de projeter le souffle. Comme tu évoquais tout à l'heure le flux héraclitéen, je dirais que dans le poème, on a affaire à un flux qui est plutôt celui de la cataracte, des chutes successives dans des bassins comme ça qui se suivent et non pas d'un long fleuve tranquille. Mmh. Donc il y a quelque chose comme, non pas tellement un obstacle, mais comme des échelons, ni plus ni moins, des étapes que franchit le cours de la voie ou le cours de l'eau qui crée parfois ce choc, cette violence. Et je crois que l'âme, dans cette définition que j'essaie d'en donner là, tout au long d'une outre remplie d'éther, qui se contracte dans le froid, qui se rétracte dans le froid, l'âme est aussi quelque chose comme cette eau hein, comme dans l'asthme, comme dans n'importe quelle maladie du souffle, vit les difficultés à respirer, à vivre, à être. Hein. C'est une âme, on peut dire, remplie de cailloux, comme s'il y avait des pierres sur l'âme qui l'empêchait vraiment de s'exprimer dans la tranquillité du souffle pur qui plane et sur les eaux, comme on dit dans la Bible. Mm-hmm. Il s'agit ici beaucoup plus d'une eau tumultueuse, d'une cataracte, encore une fois, et qui répond davantage à notre perception de l'histoire, qui est accidentée.
Oui. Alors, cette présence du sensible qui vient réveiller l'âme, au fond, est-ce que ce n'est pas la découverte du corps? Est-ce que ce n'est pas la présence du corps avec tous ces mouvements que tu évoques dans ces rebondissements de l'eau jaillissante qui produit une énergie, l'énergie du poème?
Oui, je conçois bien sûr l'âme de manière très physique, très corporelle, très charnelle, très sensuelle. Donc il ne s'agit pas d'une abstraction. C'est donc lié, bien sûr, à l'existence même de nos organes d'essence, de toute notre vitalité, y compris celle de notre propre sang, hein, qui traverse les veines, qui traverse les artères, et qui pulse comme ça dans le corps tout entier. Donc, comme chez les Grecs, j'ai une conception assez physicaliste de ce qu'est l'âme, vraiment l'âme comme souffle, ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'y voir la métaphore de la vie spirituelle. Mais je crois qu'il faut vraiment l'ancrer dans l'existence terrestre des hommes.
Alors, on pourrait revenir à cette expérience du sensible qui est quand même présente très, très fortement dans la conquête de l'espace américain. Et puis, dans les mythes, ces grands mythes fondateurs de l'Amérique, c'est quand même une marche, ce sont des corps qui se déplacent et qui luttent contre l'espace. Alors, est-ce que c'est tu n'as pas retrouvé, au terme de toutes ces explorations, les grandes voix chamaniques et les grandes voix mythiques qui parlaient de cette conquête difficile et excitante?
Oui. Alors, moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'était l'importance que les Premières Nations accordent à la parole, de sorte qu'il s'agit en général de peuples assez taciturnes. Hein. Je me souviens d'avoir voyagé en Gaspésie en autostop et d'avoir donc eu deux Atikameks comme ça qui m'ont fait faire plusieurs centaines de kilomètres sans dire aucun mot, hein, vraiment sans parler, même si avec l'ami qui m'accompagnait, on a essayé de faire la conversation. Mais non. Et par la suite, j'ai eu plusieurs autres expériences comme ça qui m'ont appris que la parole est quelque chose de sacré et qu'on ne la dépense pas inutilement. On ne parle pas pour parler, comme on dit ici. On parle pour agir, en général, hein, pour faire des choses, pour... Bon. Et j'ai eu l'expérience aussi, à quelques reprises, de pratiquer avec des Indiens Innus de Mastoyache, au lac Saint-Jean, la scapulomancie, l'interprétation des épaules de caribou, pour essayer de prédire où seront les troupeaux pour la chasse. Et effectivement... Il y a une parole qui se tient, mais une parole qui est toujours en prise à la fois sur un monde onirique, parce qu'on invoque les rêves que notamment les anciens chasseurs ont fait pour savoir exactement comment interpréter ces scapulaires, ces épaules de caribou. Mais on évoque aussi, bien sûr, les légendes, les contes qui racontent comme ça des histoires de chasse un peu fabuleuses. Donc la parole, quand elle est proférée, c'est pour agir doublement, à la fois pour la survie, hein, donc c'est quelque chose de très concret, ici il est question de la chasse, et en même temps pour la mémoire, pour la tradition, donc pour évoquer les ancêtres à travers les rêves qu'ils formulent et les mythes archaïques, les contes, les chansons même, les chants qui restent de ces histoires de chasseurs. Et voilà donc une parole qui... C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à cette idée du chamanisme, qui, un peu comme celle que j'essayais de décrire tout à l'heure avec la métaphore du geste, va bien au-delà de la simple représentation des choses ou de la simple expression de soi. Elle est un mode d'exploration du monde et du territoire en particulier. Hein. Cette parole contient autour de l'os brûlé, autour des traces que laissent, hein, les craquelures, que font les craquelures et les taches de cendres, cette parole... elle est exploratrice, elle veut trouver quelque chose, elle va vers le monde. Hein, voilà. Et je crois que le poème, le récit aussi bien, l'essai même, est du même ordre.
Alors je voulais justement, tu m'ouvres une belle, belle piste, pour te poser la question, le premier venu poétique du passant, ce livre-ci, c'est un livre de prose. J'ai eu l'impression en lisant de survoler un territoire, un espace géographique qui était couvert par le langage. Et pour entrer dans le texte, il fallait d'une certaine façon être cet aigle qui plane sur le texte et qui fonce pour se saisir, au fond, des moments forts ou des moments qui surgissent à travers cette exploration d'un paysage verbal qui est très sensoriel et qui couvre, qui dessine un espace géographique. Alors, cette idée de lire de haut en regardant le sol, c'est bien la lecture du chaman qui regarde les signes laissés au sol de l'espace ou des eaux brûlées ou je ne sais, de ces pratiques rituelles. Il y a bien un regard qui du dessus trouve les traces au fond sur
C'est le regard de l'aigle, mais qui est assez particulier. L'aigle plane, donc il a une vision périphérique assez large, il voit l'ensemble du territoire qu'il survole, mais en même temps il a aussi une vision qu'on appelle fovéale, c'est-à-dire qu'il peut pointer sa proie dans les broussailles et de manière très précise. Et parfois c'est un lièvre, un mulot, donc il y a constamment cette espèce d'ajustement du regard où on a conscience de la vastitude, donc en vol plané, mais en même temps, on peut fixer le plus petit détail qui soit au sein de cette diversité qui se présente.
Oui, moi j'ai vraiment l'impression que cette écriture, la tienne, explore ces deux temps au fond de la parole. La géographie couverte, le territoire couvert par le langage, un paysage très verbal, mais vraiment couvert. Et puis, à l'inverse, on pourrait revenir maintenant sur les derniers poèmes et voir Déposition, ce titre qui vient après, à force de voir, on peut déposer une proposition. Et vraiment, on a là peut-être la présence de ces eaux, de cette matière qui vient faire sens sur ce paysage un petit peu compact, langagier. Est-ce que c'est un mouvement que tu as voulu...
Oui, le cœur de ce livre, Déposition, résulte d'une expérience comme ça avec les Innus de Mastoyache, où on a non pas reconstitué une expérience de scapulomancie, parce qu'on ne peut pas vraiment le faire, mais où on a travaillé à partir de cette idée. Des artistes, des écrivains avaient été invités pour essayer d'imaginer quelque chose qui soit l'équivalent de ces pratiques de divination, mais pour le monde contemporain, pour notre histoire à nous. Alors le poème central, effectivement, est lié à cette expérience.
Est-ce qu'on pourrait te demander de lire un texte? Je peux suggérer le premier ou un autre.
Voilà, je peux lire le premier, qui est une sorte de petit art poétique en même temps. Tirer à blanc sur les mirages, en chair, en os, écrire à vue, à fond, à perte, sur le visage, la bouche ouverte des gens qui portent le poids de leurs rêves comme un dernier sourire. Leur âme bée, leur langue pend, les dents qui claquent dans un grand vent, la vie qui passe par la grande porte fermée à clé. L'histoire à deux, jamais comptée, qui se conclut d'emblée sur un silence qu'on garde, une faute de frappe que l'on commet, une rature triste sur un visage aimé, une cicatrice sur le poignet, entre nos doigts crispés. Ils en retiennent le pouls, le poème de la vie retenue, une dernière note tenue, un peu de soi échoué.
Merci. Alors, dans ce prisme de la parole, comme tu as déjà écrit, on peut voir le temps d'une autre manière. Alors, parlons un peu de cette post-histoire qui maintenant vient doubler ou croiser cette géographie post-exotique. Alors, c'est ce livre magnifique, très riche, enfin, beaucoup de propositions dans Hors-temps poétique de la post-histoire. nous invite à explorer la littérature un petit peu, si je comprends bien, comme un hors-jeu, dis-tu, comme un temps supplémentaire. Enfin, il y a dans les premières pages cette image du match qui serait celui de la vie commune, et puis que la littérature pourrait gagner un temps hors de ce jeu pour ajouter, pour regarder au fond ce jeu d'une autre manière. Alors, pourrais-tu
On parle depuis plusieurs années de la fin de l'histoire, comme si la partie était finie. Mais en réalité, non. On est dans une sorte de prolongation de ce temps historique, qui est un temps linéaire, qui se conçoit par tranches, par époques, par périodes, appelez-les comme vous voudrez, mais qui s'est donc développé d'une manière un peu causale, hein, comme ça depuis la fin du Moyen-Âge ou la Renaissance jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, effectivement, on est sans doute entré dans un autre mode d'existence temporelle, que j'appelle moi un temps tourbillonnaire plutôt qu'un temps linéaire, donc un temps qui reprend dans sa forme cyclonique, si on veut, à la fois toute la mémoire, y compris la mémoire, je dirais, archaïque, donc les traditions, hein, celles qui se perdent dans la nuit des temps, comme on dit, et aussi toutes nos appréhensions, tous nos rêves, toutes nos utopies, et qui les brasse, qui les rebrasse indéfiniment, comme ça, hein, dans une sorte de tourbillon qui emporte beaucoup avec lui, parce que c'est quelque chose de relativement violent. On a vu qu'au cours des dernières décennies, on a fait table rase de beaucoup de choses, hein, y compris des rêves d'égalité, de solidarité, etc., qui ont eu cours dans les grandes pensées politiques héritées du marxisme, notamment. Donc on a mis beaucoup de choses comme ça, je dirais pas tellement aux poubelles de l'histoire, mais dans un tourbillon où ça recircule comme ça dans tous les sens. Un jour, ça va se déposer, sans doute, hein, et on va pouvoir mieux voir où on en est. Mais on est présentement dans cette espèce de post-historicité que j'appelle cyclonique, hein, qui n'est pas cyclique au sens où on l'entendait autrefois, avec l'idée de l'éternel retour à la Nietzsche, mais plutôt vraiment révolutionnaire au sens astronomique du terme, si vous voulez, hein, un peu comme un astre qui tourne autour d'une planète. Hein, ce sont des révolutions qu'il fait, à la fois sur lui-même et autour, hein, d'une étoile ou d'un soleil. Hein. Je dirais qu'autrefois, on croyait sans doute qu'on pouvait atteindre l'étoile, atteindre le soleil. Hein. C'était la quête hegélienne d'un absolu vers lequel on se dirigeait à travers le progrès. Là, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut que se mettre en orbite autour de nos rêves, autour de nos idées les plus généreuses. Donc, vivons dans cette orbite du temps tourbillonnaire. Je crois que beaucoup des œuvres qui m'intéressent aujourd'hui, en art comme en littérature, nous amènent à éprouver ce tourbillon-là. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui.
Alors, toujours cette tension entre ce qui s'agite, ce qui éclate, ce qui tournoie et ce qui se dépose. Alors, peut-être tu pourrais nous expliquer un peu plus ce sens du mot déposition, puisque la déposition, c'est quand même faire acte, c'est un acte de langage très fort, presque juridique, enfin, presque il y a quelque chose, il y a une dimension d'ordre aussi dans ce titre.
Oui, c'est aussi la déposition des corps, hein, c'est-à-dire le fait qu'on a notamment dans le langage public, en fait, le langage des évangiles, surtout, c'est la déposition du corps du Christ, hein, qu'on a décloué de sa croix et qu'on va transporter au tombeau. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du funéraire dans cette idée de déposition. Et puis c'est aussi un peu comme ça un témoignage, hein, la déposition. Mais ici, au lieu d'être un témoignage contre quelqu'un, un éventuel suspect, coupable, c'est un peu un témoignage contre soi-même. Hein. Le livre dont on parle ici, c'est vraiment déposé contre sa propre personne, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu comme les derniers mots qu'on laisse pour dire en quoi on porte, d'une certaine manière, le poids d'une faute qui n'est pas nécessairement identifiée, qui n'est sans doute pas identifiable non plus, mais cette idée qu'on doit porter ça. Hein. Donc, bien sûr, on peut imaginer qu'à un moment donné, on dépose ce poids-là, et je crois que dans le terme déposition, il y avait aussi cette connotation, mais en même temps, ça reste quelque chose comme une charge.
Alors, nous revenons au point de départ, le mythe de Sisyphe et le poids du monde, la charge du monde. Pierre Ouellet, les mots sont-ils un masque ? Sont-ils ces mots, vêtements, ces mots qui sont portés par l'écrivain, servent-ils à cacher plus qu'à dévoiler ?
Non, cacher. En fait, ce que ça montre, le mot ou le langage, c'est quelque chose d'obscur en général. Mm-hmm. Quand on cherche à exprimer des idées claires, on va plutôt recourir aux concepts, aux notions, aux idées reçues, aux opinions, à la doxa, à ce qui fait sens commun entre nous. Mais à partir du moment où on veut parler de ce qui nous échappe un peu, enfin de ce qui n'est pas clair, on recourt à quelque chose qui est une image poétique, c'est-à-dire un mot dans tout, un vocable, hein, comme disait Edmond Jabès, et donc quelque chose qui a toute sa richesse, hein, intuitive, et dont le sens n'est donc pas totalement éclairci, totalement épuré. Il reste un peu chargé de la poussière dans laquelle il a traîné, hein, de cendres qu'il porte. Donc c'est ce genre de langage qui m'intéresse, un langage qui n'est pas tout à fait séparé encore de la matérialité du monde, hein, et qui n'a pas fait son deuil du monde dans la clarté du concept, mais qui épouse comme ça, hein, toute la poussière de l'être.
Oui, il me semble qu'on voit dans Voir, dans les trois ouvrages de Voir, et puis dans ceux d'une autre remplie des terres qui se rétracte dans le froid, ce combat de cet être parlant et vivant, cet être biologique, ce combat pour exister, ce combat pour atteindre l'autre. On voit une traversée qui va de plus en plus vers l'univers du visible, comme si la réversibilité du dedans et du dehors, du masculin et du féminin, de ce qui est vide et de ce qui est plein, enfin toutes ces antinomies, petit à petit se résorbent et atteignent une sorte de... Enfin, une traverse, en fait. Il y a une déchirure du voile, il y a une transparence, une visibilité, une évidence qui se fait jour à travers l'œuvre poétique, me semble-t-il.
Oui, il ne s'agit pas de s'en tenir à l'obscur. Hein. Il faut l'affronter, mais on a tout un travail un peu alchimique à faire pour lui rendre sa lumière. Hein. Mmh. Et pour reparler un petit peu de cette question du poids, de la charge qu'on évoquait tantôt à propos de déposition, j'aimerais peut-être vous lire un petit extrait de La vie de mémoire, qui dit les choses de manière encore une fois un peu confuse, bien sûr, parce que ce n'est pas tout à fait net pour moi, mais qui peut vous rendre un peu plus sensible à cette question-là d'un héritage, hein, dont on ne peut pas tout à fait se libérer, et sinon par le souffle que la parole poétique nous donne. Un jour, mon père m'a dit, et ne le dira pas deux fois, « Toute la misère du monde, mon fils, tu la porteras, sur ton pauvre dos, sur tes frêles épaules. » Ce cintre d'os qu'il faudra bien que tu accroches au ciel si tu veux un jour te tenir debout. Je me souviens de ça. C'est sorti de sa bouche comme les tables de la loi jaillissent en flammes du buisson ardent. Puis il s'est tu pendant des mois et des années, pendant des siècles. Il sera mort de ça. Le malheur humain en travers de la gorge, qu'il m'a légué dans cette espèce de boule que j'ai lorsque j'essaie de vous parler, comme si je vous portais tout entier. Et que chaque mot en moi cherchait en vain à vous mettre au monde, à vous donner le jour, dans la nuit noire où il vous reprend. C'était un soir de juin. Il faisait chaud, comme dans sa tête, quand les grandes fièvres du plein été frappent ses pensées et ne les lâchent plus. On est assis dans l'escalier, devant la route déserte. Il n'y a pas de vent, pas d'air, presque pas de mots. Puis, ce geyser. « Mon fils, tu n'as pas de père, rien qu'une misère de père que tu devras relever. Laisser tomber ensuite sous ton propre poids, pour ce fils que tu auras, plus faible que toi et moi réunis, et qui la ramassera, cette misère vivante, la portera à son tour sur quelques pas, l'emportera plus loin. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Faudra-t-il que l'homme pèse sur l'homme, l'écrase de tout son poids, avant même qu'il ne soit né, qu'il puisse parler ? Puis ne puisse plus parler. Une voiture est passée qui enterra ses derniers mots ou ses dernières pensées, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait jamais prononcé quoi que ce soit de toutes ces choses dont je me rappelle vaguement le sens, sans me souvenir du son de la voix qu'il aura produit en moi, bien plus que dans mon oreille. Maintenant, je pense à ça tout le temps. Maintenant que je suis là, fatigué de tenir mon père par ce bout de mémoire qui ne me lâche plus. On est tous des héritiers. On a beau partir pour Katmandou, on en revient chaque fois. On ne va jamais qu'au bout de la rue, d'où on se retourne pour voir si sa maison est encore là, à portée de vue. Et ce balcon où je vois mon père mâcher ses mots pendant des heures, puis se taire pendant des années. Mon père est un homme muet, plus muet que mort. Muet dans sa mort qui me parle encore, quand lui s'est tu pour plus longtemps qu'il n'aura vécu. Je dois parler, moi, comme aucun de mes ancêtres ne l'a fait avant. C'est une lignée de silencieux, celle d'où je viens, que je dois rompre à chaque instant, rompant toute communication avec leur taisure, cette façon de se taire qui n'est qu'à eux, rompant tout lien, tout nœud, toute communion avec ce mutisme généralisé qui n'est jamais que le beau nom d'un incurable autisme, d'une aphasie chronique, d'une stupeur maligne, d'une impuissance quasi sexuelle à dire ou à se dire, comme si parler était mentir, écrire, même pour soi seul, braire à tue-tête ou fabuler. Moi, je veux braire. Et ne plus être pour mes pères que l'âne têtu des fables les plus incroyables, bourrique ou bien mulet, qui dira tout ce qui lui passe entre les oreilles comme si ça se passait dans le monde, ce monde qui est là comme un grand pré où l'on ne peut plus rien faire que paître, justement, braire et brouter, écrire du mieux qu'on peut. Que le monde qu'on nous a laissé reste en jachère, au repos de l'homme, à la retraite pour l'éternité. Mais il faudra bien retrousser ses manches un jour ou l'autre et y bêcher, piocher, retourner ça de fond en comble, avec la herse de ses 10 doigts, labourer ça au plus profond.
Merci, c'est très beau. Alors, on a ici deux belles pages, qu'on aimerait entendre poursuivre sur cette ombre, entre les ombres aussi, que l'on retrouve dans ce texte-ci, où la construction du sujet, cette fois-ci, explore un anonymat qui est peut-être celui de la voix commune des écrivains. Alors, on retrouverait peut-être, à partir de la force de cette constitution du langage, contre le dehors et avec le dehors, cette communauté de partage qui était si cher et qui donne lieu à tous ces ouvrages collectifs, au fond, de recherche commune.
Oui, je pense que tous les livres n'en forment qu'un, en général. Hein. Bon, un peu comme dans la Bible, plusieurs prophètes, plusieurs témoignages, plusieurs types de textes composent un seul grand ouvrage. Et je circule, moi, dans la littérature, un peu comme on le ferait... Dans sa propre tête, c'est-à-dire que ce sont chaque fois des régions un peu de la pensée qu'on explore et qui nous appartiennent presque autant qu'à leur auteur. Hein. Et donc je vois très peu de différence entre la pratique de l'essai, déclenchée souvent par la lecture que je fais du texte des autres, soit littéraire, soit philosophique, et la pratique du poème et du récit. C'est quelque chose qui existe de manière solidaire. D'une certaine façon, le regard théorique sur le livre des autres, c'est une façon de les réécrire, leurs livres, hein, de les traduire, mais au sens fort du terme. Et je pense qu'effectivement, chaque livre que je fais, qu'il soit poème ou récit, m'amène toujours aussi vers le livre d'autrui.
Est-ce que ce temps, justement, ce hors-temps, ce n'est pas celui de la lecture, au fond, qui est la mémoire des écrivains, la mémoire en chaîne des écrivains?
Oui, enfin, moi, mes souvenirs de lecture sont tels que ils ont eu, dans un premier temps, une fonction quasi thérapeutique. Je m'explique, on me mettait dans les mains des livres... de Bob Moran ou Dieu sait quoi, que je n'arrivais pas à lire. Et je me posais de sérieuses questions sur mes capacités intellectuelles. Comment se fait-il que je n'arrive absolument pas à m'intéresser à ce type de bouquin? Et un jour, je suis tombé un peu par hasard sur des poèmes de René Char et sur Les Champs de Maldoror de Lautréamont. Et là, j'ai compris ce qu'était vraiment la lecture, ce que sont les livres. Et j'ai mieux compris aussi cette espèce de difficulté que j'avais pu avoir à entrer dans certains univers, alors que là, avec la folie énonciative qui caractérise ces œuvres-là, le tourbillon verbal qu'on y trouve, là, je me sentais totalement à l'aise et justifié de vivre mes propres étourdissements, ma propre folie. Donc la lecture a été pour moi une révélation totale, cette lecture-là. Et je n'ai pas cessé par la suite, bien sûr, de dévorer tous ces livres un peu étranges. Alors, voilà, donc l'étrangeté du monde ne peut qu'être relayée d'une certaine manière par l'étrangeté de la parole qu'on trouve dans des livres comme ceux-là, Le marteau sans maître, Les champs de Maldoror, Les illuminations, sur lesquelles j'ai eu la chance de tomber assez jeune, à l'âge de 13-14 ans. Donc ça a été un choc absolument dont je vis les contre-coups encore aujourd'hui.
Alors, on pourrait peut-être entendre encore, moi j'aimerais beaucoup, je ne sais pas vous, si vous avez quelques questions à poser, commencez à y penser. Et oui, on vous passera le micro. Peut-être, le temps que vous formuliez votre question, on pourrait peut-être entendre encore un poème qui parle de cette étrangeté du langage et de cette vue qu'a la littérature sur le reste du monde et qui tient l'être solidement accroché dans tout ce tourbillon qui l'entoure.
Je peux vous lire peut-être quelques poèmes de l'Avéré, qui est la deuxième partie d'Une autre remplie d'éther. Alors, j'ai fait précéder cette partie d'une très belle phrase de Paul Claudel. Bon, le livre s'appelle L'Avéré. Claudel dit ceci: « Car la vérité se montre comme le sang sur un vêtement blanc. Je vide chaque fruit d'un reste de fleur qui prend racine dans son odeur. La vérité sent, se sent. Je ressuscite en chaque souvenir les temps lointains où le rombrant personne aura quitté cette terre. Pour une autre vie, la vérité tue. Je cueille tout un jardin dans le seul parfum d'une rose. La vérité exhale le temps, le monde parti en fumée. Je compte sur les doigts de la main les vérités qui comptent. La vérité se raréfie. La vie repasse par tout ce que vivre n'est plus. La vérité n'est qu'en passant. Je place ma main contre ma tempe, l'index tendu, le pouce en chien de fusil. La vérité se montre du doigt. Je vois s'échapper de mes membres ligotés mes gestes un à un vers les tendus où ils tombent dans le sans fin, le sans début. La vérité nous glisse des mains. Je prends parti pour l'indéfendable. La vérité se plie à toutes les vérités. Je ne prends plus le temps de souffler sur mes cendres. La vérité souffle à l'oreille absolue des morts les derniers mots que je prononcerai. La vérité ravive les douleurs, les couleurs, les mieux endormis. La vérité, la résistance des matériaux qui ont présidé un jour à la construction du ciel, l'élévation des siècles et des siècles, l'élément d'air où gisent les vérités entre l'eau et le feu, la terre entière. La vérité plane entre les souffles, miasmes, phasmes, remugles, la vérité pue.
Merci beaucoup. Alors, un bel écho. Enfin, en ce qui me concerne, je repense à ces grands paysages dansés par Jean-Pierre Perrault et je réentends un peu dans ses poèmes ces mouvements cassés, anonymes, toute cette collectivité qui se représente. Alors, merci Pierre Ouellette. Avez-vous des questions? Je vais vous passer le micro.
Je vous remercie, ça a été très intéressant. Dans votre, quand vous avez dit au sujet du langage comme flux, comment vous percevez les relations entre les perceptions multiples dont vous donnez à votre écriture et dans quel livre suggérez-vous que je lise ça pour avoir une idée? Merci.
Évidemment, dans les quelques récits que j'ai publiés, en particulier dans Une ombre entre les ombres, mais aussi peut-être dans un premier livre qui s'appelait L'attrait, qui est un recueil de nouvelles, en fait, où il est beaucoup question du rapport au monde sensible. D'abord dans une nouvelle qui tourne autour d'un personnage archéologue qui fouille dans une espèce d'Arcadie à la recherche de quelque chose qui n'existe pas vraiment parce qu'il prétend que tout a été trouvé déjà, toutes les amphores, tous les vases, etc. Donc c'est quelque chose d'autre qui cherche une présence. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis il est question ensuite d'un peintre, d'une photographe, etc., etc. Donc il y a vraiment là tout un travail sur l'idée de capter le monde sensible au-delà de ce qu'il nous donne déjà à voir. Hein, puisque le monde, s'il nous donne quelque chose, retient peut-être aussi autre chose. Non pas qu'on doit lui arracher des mains, mais qu'on doit appeler par un don qu'on a à faire soi-même, par le don de la parole notamment. Hein. Et c'est ce contre-don au don qu'on fait de la parole qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas ce qui est donné d'avance, hein, ce qu'on appelle les données sensibles, hein, les sens data, comme on dit aussi en latin, ou une expression que les philosophes utilisent énormément, hein, c'est le monde empirique, ce que je vois d'emblée. Non, c'est ce qui est retenu derrière ce qui se donne et que je n'obtiendrai que si je donne en retour quelque chose, hein, que je me donne moi-même. Hein. Voilà, exactement. Exactement comme écrire, c'est un peu le geste de la main tendue vers quelque chose. Je dirais que c'est tout le corps aussi, hein, qui, à travers cette main, se donne. Et je ne veux pas ici évoquer trop longuement l'idée du sacrifice, parce que c'est une notion très complexe, et sur laquelle, d'ailleurs, je vais avoir à revenir l'automne prochain, parce que mon équipe et moi organisons un colloque sur cette idée de sacrifiction. Comment la fiction, d'une certaine manière, met en scène le sacrifice sous toutes sortes de formes. Hein. Pourquoi la question de la mort est si présente dans les récits et dans la poésie? Parce qu'il y a une façon de donner sa vie, y compris, hein, quelque chose au monde, pour que le monde puisse se donner davantage que dans ses masques et ses, je dirais, ces sensations les plus superficielles, les plus en surface.
Quelqu'un veut-il encore se hasarder à prendre une question ou un commentaire? Et puis...
Peut-être que tout le monde est un peu fatigué. Je vais peut-être vous lire un dernier texte, si vous me le permettez, ou si c'est
oui,
trop,
ce sera... hein,
pour clore un peu cet entretien. Je reviens sur ça, le grand portage des morts, l'incessante déportation des morts vers les vivants, le grand déport de la mort en nous, l'import-export vie-mort à tout bout de champ, l'intime commerce de ceux qui restent et de leurs disparus, les déportés de toute espèce. Et pour finir, le portement de soi, cette croix qu'on a littéralement, non pas sur le dos mais bien dedans, comme une seconde épine dorsale, cruciforme et qui fait mal tout le temps. Mon père disait, un jour, tu en auras soupé de nous marcher dessus, de nous écraser, et tu ne marcheras plus que sur tes propres jambes. Alors, tu me prendras sur tes épaules, tes jambes fortes comme un tronc d'arbre, comme ces troncs d'arbre avec lesquels on fait des croix, plantés au bord des champs, à des carrefours où plus personne ne passe que l'air et les oiseaux. Puis on sera là pendant des siècles encore, mon pauvre corps cloué au tien comme un grand Christ de plâtre blanc sur du bois mort, qui craque sous les grands vents, travaille tout l'hiver et au printemps resserre ses nœuds comme si ses plaies se refermaient dans la chaleur cuisante. Je ne sais pas s'il aurait dit tout ça, mon père, qui se taisait le plus souvent, mais il n'en passait pas moins. Et moi je me répondais, mon père ne fait pas le poids, si lourd qu'il soit, surtout dans sa tête, une pesanteur de la cervelle bien plus que de la pensée, une lourdeur de crâne bien plus que de la conscience. Ce serait sur moi une chose légère, de la poussière sur une épaule, quand on marche au bord de la route et qu'une voiture passe à toute vitesse, soulevant plus de matière dans l'air que ne l'aura fait la vie de mon père dans ma propre vie. C'est ce qui reste le plus longtemps, la poussière sur un vêtement, la cendre froide dans un feu éteint. On ne s'en défait jamais, d'un revers de main ou d'un coup de balai, sans qu'il en subsiste quelques traces vives, ce presque rien si résistant. Ce qui disparaît laisse une tache de naissance indélébile sur l'âme de ceux qui restent après et portent la marque de toutes ces morts comme un signe distinctif auquel on les reconnaît bien davantage qu'à leur nom propre ou à leur voix. Écrire, laisser s'étendre la tâche, qu'elle envahisse le monde et vous envahisse, que tout ce qui est porte la marque de ce qui n'est plus, moi, celle de mes ancêtres, et vous, celle d'un monde à jamais disparu, dont parlent les livres qui ne disent plus rien, parce que tout en eux, comme dans mon père, c'est déjà dit, et puis c'est tu.
Merci beaucoup, Pierre Ouellet. Merci à vous tous qui avez été là. Merci. Vous êtes invités à côtoyer les livres, à les ouvrir, les regarder, et puis si vous désirez des signatures ou si vous désirez échanger avec Pierre Ouellet, il est ici, profitez-en. Voilà. Bonsoir à tous.